Chapitre 27. Owen entend les pales de l'hélicoptère déchirer le ciel. Il ouvre la fenêtre de sa chambre pour essayer de le repérer. À cette époque de l'année, quand la nature a été mise à nu par l'hiver, il peut distinguer certaines parties du grand terrain vague à côté de chez eux. Avant, il y avait un manoir à cet endroit. Winterham House. Pendant des décennies, personne n'avait touché à ses carreaux brisés, son lierre qui envahissait les balcons branlants, ses cheminées écroulées, les graffitis qui tapissaient ses murs, l'herbe qui poussait de façon anarchique. Owen s'était installé chez Tessie 2 mois avant la démolition. Fasciné, il avait assisté au démantèlement de la bâtisse, brique par brique. Toutes les belles pièces qui étaient empilées dans des camionnettes pour être revendues à des prix exorbitants chez des antiquaires, les matériaux que l'on réutiliserait, et tout le reste détruit en morceaux assez petits pour rentrer dans des remorques. Cela leur avait pris environ 3 mois, puis les ouvriers étaient partis, et la poussière, le bruit, tout s'était arrêté. La lumière filtrait à travers les arbres, des oiseaux chantaient, les renards étaient revenus, et chaque été, le terrain se couvrait de fleurs des champs. Certains soirs, Owen entendait des ados qui s'y regroupaient, et l'odeur des joints entrait dans sa chambre. Un jour, une affichette était apparue dans la rue indiquant qu'un promoteur avait proposé de construire 5 grandes demeures luxueuses sur le terrain. Tout le quartier s'était réuni pour s'opposer au projet, bien sûr. Finalement, le promoteur avait accepté d'édifier de plus petites maisons et de préserver en partie la végétation et l'atmosphère du lieu. Cela faisait 4 ans qu'il avait reçu l'autorisation de démarrer les travaux. Pourtant, le chantier était au point mort. Cette vue dégagée et verdoyante avait toujours donné l'impression à Owen qu'il vivait seul, en pleine nature. De sa chambre, on ne voyait que des arbres. Aucun signe de la vie citadine. Mais, en se penchant par la fenêtre, il se rend compte que cette oasis silencieuse est maintenant noire de monde. Des gens s'interpellent, des talkie-walkie crépitent. Le va-et-vient des équipes de police sur le terrain, le bruit de l'hélicoptère. Il imagine que c'est lié à la disparition de cette fille, celle dont la police lui a montré le portrait la veille. C'est probablement la faute d'Owen s'ils sont là, parce que bêtement il leur a parlé de la silhouette qu'il avait vue dans la rue le soir de la Saint-Valentin. Alors qu'il n'est même pas sûr de ne pas avoir rêvé. Toute cette soirée est floue. C'est comme regarder un film en accéléré et s'arrêter un instant sur une image avant que le rythme effréné ne reprenne. Il ne se souvient même pas de comment il s'est endormi. Le lendemain, au réveil, il portait encore sa chemise et une chaussette. Il sort dans le couloir. Tessie et Barry sont déjà là, sur le pas de la porte, essayant de voir ce qu'il se passe. « Ils ont trouvé quelque chose », lui annonce sa tante. « En lien avec la disparition sur laquelle ils t'ont interrogé, cette fille sur l'affiche. »«
Qu'est-ce qu'ils ont découvert ?»«
Ils ne m'ont pas dit. La rue va rester bloquée toute la journée. Ils vont également fouiller le jardin. »«
Quel jardin ?»«
Le nôtre, celui de la maison. Je leur ai donné la permission d'y aller. » Owen sigh. Ce n'est pas un problème, si ? Demande Tessie en plissant les yeux.
Bien sûr que non. Pourquoi s'en serait un ?
Je ne sais pas. Tu pourrais voir ça comme une intrusion dans ta vie privée, ou une sottise de cet acabit.
Ce n'est pas mon jardin, à ce que je sache. C'est celui de toute la maison.
Tout à fait, tu as raison. Les enquêteurs sont dans leur jardin maintenant. Ils examinent les fourrés, les tas de vieux outils de jardinage rouillés que personne n'utilise. Owen les regarde, il essaie de comprendre ce qu'ils se disent. Il perçoit des bribes de conversation, mais ce n'est pas suffisant pour se forger une idée de la situation. Plusieurs policiers se sont regroupés à l'arrière de la maison, sous sa fenêtre. Une vague d'angoisse submerge Owen, qui se réfugie dans sa chambre. Un homme en interpelle un autre.
« Ici, il y a un truc. File-moi la lampe. »
Owen retient son souffle. Il se tient à côté de la fenêtre, dos au mur, tout ouïe.
Appelle la chef.
Quelqu'un se met à courir. Il entend les graviers crisser. On prononce le nom de l'inspectrice Curry. Quelques instants plus tard, il entend sa voix.
Qu'est-ce qu'on a ?
Owen jette un coup d'œil discret par la fenêtre. Il voit le sommet de 3 têtes, une lumière qui éclaire la pelouse, un objet rose doré qui scintille. Des gants écartent délicatement les brins d'herbe. Une coque de téléphone est extraite du sol et déposée dans un sachet en plastique. L'air est électrique, le désastre imminent. Quelque chose d'épouvantable va se produire. Les pales de l'hélicoptère tournoient au-dessus de sa tête comme des hardes de gnous piétinant un sol noir. Owen s'éloigne de la fenêtre et s'écroule contre le mur.